Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Il est des espèces qui nous alertent sur l'état de notre planète et nous renvoient un reflet plus philosophique de notre civilisation. Encore faut-il les voir, les approcher, les regarder, les entendre et les comprendre. Dans ce paysage où les scientifiques s'inquiètent du climat qui s'emballe et de la biodiversité qui se tarit, nos invités jouent chacun à leur façon un rôle de passeur entre nous, humains, et le reste du vivant. Refusant que le monde ne devienne silencieux, il nous donne à voir ces espèces en danger, cette biodiversité, la richesse de notre terre. Il nous renseigne aussi, nous interpelle, dans l'espoir que l'émerveillement au monde prenne le pas sur la déraison, la spéculation, le déni, l'avidité, la vitesse et l'emballement de nos sociétés. Aujourd'hui, la voie est libre avec Sabrina Krief. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes primatologue, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle, directrice de la station d'études et de préservation des grands singes de Sébitoli en Ouganda et auteure notamment du livre « Chimpanzés, mes frères de la forêt », un livre paru aux éditions Actes Sud. Et avec nous, Yann Arthus-Bertrand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe, réalisateur et président de la fondation Good Planet et illustrateur du livre « Laudato si » du pape François, un livre édité chez Première Partie. Regard croisé sur cette planète du vivant avec vous, une planète du vivant que vous nous restituez avec vos outils à vous. Et l'œil du monde planète sera aujourd'hui celui de Gaëlle Dupont, rédactrice en chef adjointe des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire. Elle nous fera partager une belle rencontre en lien avec l'océan. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement sur France Culture, magazine préparé par Anaï Morales, avec toujours nos complices Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Jean Frédérix.
Rien d'extravagant à ce qu'une primatologue défende les grands singes. Sabrina Krief étudie une communauté de chimpanzés en Ouganda depuis 20 ans. Qu'une comédienne défende la cause est plus étonnant. Nathalie Baye se dit passionnée par ces animaux.
Je me sens extrêmement proche d'eux quand on les regarde dans les yeux. Par exemple, Nanette au Jardin des Plantes, je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi je la connais vraiment très bien, quoi. J'y vais très souvent. Il y a un regard tellement éblouissant, c'est tellement extraordinaire. La communication avec les yeux, ça me bouleverse.
Dans cet appel à sauver ces primates qui partagent 98% de leur patrimoine génétique avec l'homme, Laurence Parisot insiste sur le rôle des entreprises qui déforestent pour cultiver des palmiers à huile ou vendre le bois.
Je dis simplement aux entreprises et singulièrement aux grandes entreprises françaises qui sont présentes en Afrique ou dans l'Asie du Sud-Est, vous avez des engagements sociétaux, des engagements environnementaux. Dans ces responsabilités nouvelles que vous vous donnez, et c'est très bien, intégrer la problématique des grands singes, la problématique de nos cousins qui sont menacés d'extinction.
C'était un extrait du journal de 13h sur France Inter le 9 avril 2018 à l'occasion d'un appel lancé par des personnalités dont Nathalie Baye, dont Laurence Parisot, Sabrina Krief. Ce sont des ambassadrices, ils sont nombreux à vous suivre comme ça dans vos déambulations aussi peut-être sur place et dans vos travaux de recherche en Ouganda.
Dans le cadre de cet appel pour les grands singes, en fait, on avait essayé de rassembler des personnalités venant de milieux et d'univers différents et par exemple donc Laurence Parisot, que jamais je n'aurais pensé rencontrer à une autre occasion, qui, elle, s'est effectivement engagée sur l'aspect entreprise. Nathalie Baye, en tant qu'actrice, qui peut aussi toucher un monde qui a parfois à voir aussi avec la déforestation, l'environnement, etc. Yann Werling, pour les aspects plus politiques. Et puis Patrick Roger, chocolatier, sculpteur. On sait à quel point donc le cacao, mais aussi le thé, le café, etc., ont un impact sur les forêts tropicales. Et Patrick Roger, non seulement au travers du cacao, mais aussi par ses sculptures, incarne cet engagement aussi artistique qui peut toucher le grand public.
Alors sur place, Nicolas Hulot, Nathalie Baye se sont rendus sur le terrain en Ouganda avec vous ?
Oui, il y a un an à peu près, ils m'ont accompagné dans une mission de terrain avec comme objectif de leur faire découvrir, Nicolas connaissait déjà bien le terrain et la cause des grands singes, mais ce qu'est plutôt le travail scientifique au quotidien. Ils sont venus assez longtemps, donc ça nous a permis de transmettre cet aspect donc de la recherche de terrain, qui est à mon avis aujourd'hui essentiel dans un monde où la science est parfois contestée, pour pouvoir aussi apporter apporter des faits concrets au grand public autour donc d'espèces qui sont extrêmement menacées.
Yann Arthus-Bertrand, cette médiatisation, elle est indispensable pour faire émerger une prise de conscience ?
Faut tout essayer. Moi, je m'intéresse aux animaux depuis que j'ai 20 ans. Donc, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je suis effaré quand même. Quand le WWF dit qu'on a perdu 60% du vivant en 40 ans, je me souviens quand j'étudiais les lions au Kenya, quand j'étais jeune, j'avais 28 ans, je pensais lire dans la une du Monde la sixième extinction. Quoi. C'est invraisemblable ce qui arrive en ce moment, invraisemblable.
C'est une conséquence inévitable de l'ère de l'anthropocène, ce sont, on peut dire, les humains finalement qui se sont éloignés de la nature.
C'est simplement que depuis toujours, l'homme a été un grand prédateur. Je suis en train de relire Sapiens en ce moment, et il raconte justement, quand les hommes sont arrivés, partout ils sont arrivés, les gros animaux disparaissent. En Australie, ça fait des millions d'années que l'homme est un prédateur important. Quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est presque 8 milliards. J'aurais vu dans ma vie la population du monde doubler, quadrupler. Mais surtout, la consommation de viande a été multipliée par 8, le poisson par 8, notre façon de vivre. Je parle même pas de l'essence qu'on consomme, quoi. Des carburants, on est dans un déni complet. Je suis assez atterré par ça, mais maintenant, c'est pas pour ça qu'on va arrêter de se battre et d'y croire qu'on peut changer les choses. J'écoutais tout à l'heure, quand vous parliez des singes, là. Moi d'abord, je suis parti au Kenya à cause des chimpanzés, quoi. C'est ça qui est intéressant. J'ai préparé une thèse. Mon idole, c'est Jane Goodall, hein, cette fameuse primatologue qui est administratrice à ma fondation maintenant. Et j'étais fasciné par Diane Fossey, Jane Goodall. Les grands singes me passionnaient. Et, en fin de compte, je suis devenu photographe et non pas scientifique.
C'est ce qui vous rassemble, hein, justement, Sabrina Krief avec Yann Arthus-Bertrand. C'est cette icône commune, peut-être on peut dire, Jane Goodall, vous aussi. Hein, vous avez mis vos pas dans ses pas et avec celui qui est devenu votre mari, le photographe Jean-Michel Krief.
Voilà, nous, on a essayé de partager les
tu
rôles.
Tu as fait comme Jane, tu as épousé le photographe.
Peut-être. Hein. En tout cas, c'est effectivement, la médiatisation et l'image sont, à mon avis, absolument fondamentaux, à la fois pour transmettre et aussi émerveiller, mais aussi prendre conscience de l'état de notre planète. Et dans le cas donc de notre terrain d'étude, effectivement, l'empreinte de l'homme extrêmement forte, puisqu'on est dans un des endroits où la densité en chimpanzés est la plus forte du monde. Hein. On a plus de 4 individus au kilomètre carré, donc ça pourrait sembler idyllique. Mais en fait, la situation à la périphérie de cette aire protégée, donc ce parc national, contraste extrêmement avec l'intérieur de la forêt, puisqu'on a aussi la plus forte densité de population humaine qu'on trouve en Afrique, hein, avec plus de 300 habitants au kilomètre carré. Donc à la bordure du parc, c'est extrêmement net. Ces deux aspects qu'on a tenté d'opposer, la nature et l'homme d'un autre côté, et je pense que c'est là où il faut essayer de raccommoder les choses, c'est d'essayer d'atténuer cette frontière et de replacer l'humain dans le monde vivant au lieu d'essayer de s'en extraire à tout prix et de vouloir se penser comme étant celui qui peut tout régler et tout réguler.
Alors dites-nous concrètement, hein, ce parc-là, vous en explorez une partie en sachant que vous aviez travaillé auparavant sur un autre secteur pendant plus de 10 ans.
Oui, j'ai commencé donc juste après ma thèse vétérinaire, quand j'ai commencé à faire de la recherche vraiment sur les chimpanzés, à travailler sur une question qui était l'automédication des chimpanzés. Est-ce qu'ils sont capables d'utiliser des plantes pour se soigner ? Donc là, j'étais au cœur du parc à essayer de comprendre les interactions fortes qui peuvent exister entre donc les chimpanzés, les plantes médicinales, en essayant également de comprendre si ces plantes appartenaient aussi à la médecine traditionnelle des humains à côté. Et puis, 10 ans après, donc on est parti un peu plus au nord du parc, dans cette zone de Sébitoli, donc qui est à l'extrême nord, entourée de plantations de thé, d'eucalyptus, de maïs, traversée par une route nationale avec un très fort trafic, et où les chimpanzés en fait ont comme voisins les humains, bien plus que les chimpanzés. 80% des frontières de leur territoire sont communes avec des humains.
Et finalement, vous pensiez que ces singes ne seraient pas là, et ils étaient présents finalement, ils se sont habitués à l'homme.
Étonnamment, donc on s'est demandé s'ils se concentraient dans le cœur du parc ou s'ils utilisaient les zones de lisière. Et en effet, on a découvert que non seulement ils consommaient le maïs des agriculteurs voisins, mais ils s'étaient adaptés en allant chaparder la nuit, puisque les humains faisaient des rondes, étaient vigilants pendant la journée, mais les chimpanzés profitaient de leur inattention pour aller chaparder la nuit. Ils ont appris à traverser la route de façon assez étonnante en encadrant les plus vulnérables, etc. Donc oui, on sent qu'il y a un fort potentiel d'adaptation de ces espèces. Alors évidemment, les grands singes ont peut-être des capacités cognitives, sont tout à fait fascinants dans leur environnement et sont capables peut-être de s'adapter jusqu'à un certain point. Mais il y a certaines des menaces comme la perte de l'habitat qui sera absolument irrémédiable si on n'inverse pas la tendance très très rapidement.
Alors pour pouvoir les étudier, hein, ces grands singes, il faut aussi se faire accepter. Et il y a toute cette période d'habituation. Dites-nous, parce qu'on a du mal à imaginer que ça peut prendre 10 ans peut-être pour être complètement accepté par les singes. Et après, je pense que Yann Arthus-Bertrand nous parlera aussi de son rapport aux animaux, les lions hein, notamment. Mais voilà, c'est vraiment accepter d'être humble et de devenir, vous dites, arbre, pierre, en tout cas s'effacer parce qu'ils ne vous feront pas rentrer facilement dans leur univers.
Exactement. En fait, Jane Goodall, avec ses travaux pionniers, a réussi à approcher rapidement les chimpanzés en utilisant un subterfuge qui était l'alimentation. Assez rapidement, elle décrit très bien la façon dont le comportement des chimpanzés a changé avec cette attente de l'alimentation qui venait des humains, cette grosse boîte là qui distribuait des bananes. Et donc, quelques années après, il a été décidé qu'il fallait absolument stopper le nourrissage. Et donc, nous, notre moyen de les approcher, c'est d'avoir des contacts répéter visuel simplement et de garder donc une distance avec eux, mais en fait ça prend 5 à 10 ans avant d'obtenir leur confiance quand c'est possible. Dans la plupart des pays d'Afrique où le braconnage est très intense, beaucoup d'équipes ont abandonné complètement parce que les chimpanzés ont cette crainte viscérale de l'homme, de la peur de se faire tuer. Il faut savoir que quand on voit par exemple un chimpanzé sur un marché africain qui est vendu comme animal de compagnie, c'est 10 à 20 autres qui ont été tués pour se procurer ce jeune chimpanzé. Donc c'est des massacres au sein de la forêt et ça marque forcément les populations et de façon adaptative, il y a une crainte très très forte de l'humain qui s'est produite.
Et aujourd'hui, il y en a certains que vous pouvez approcher véritablement, quasiment au contact.
Voilà, 10 ans après nos premiers pas dans cette zone, on a pu nommer une 60aine de chimpanzés. On estime que la communauté qu'on suit, donc le petit groupe qui occupe les 25 km carrés, compte environ une 100aine d'individus. On les a nommés aussi dans la filiation de ce que Jane Goodall a ouvert, à savoir il y a des individualités et je pense que c'est ça qui est aussi important au niveau scientifique à faire valoir. Les animaux ont des émotions, les animaux ont des personnalités et c'est pas perdre son objectivité de scientifique que de le reconnaître et c'est un pas important qui n'a pas été évident à franchir et les primatologues et tout particulièrement ces trois femmes qui avaient été envoyées par Louise Leakey ont été des pionnières et ont amorcé ces changements qui ont été très durs à admettre tant par les scientifiques qu'ensuite par les anthropologues et les ethnologues aussi qui ont eu du mal à accepter que les animaux aient des cultures, que les animaux utilisent, fabriquent des outils.
Qu'ils puissent avoir de l'empathie et ressentir des sentiments, tout simplement, éprouver des sentiments. Tout
voilà, donc il a fallu 60 ans pour que tout ça se mette en place, mais pendant ce même temps, pendant ces 60 années, 70% des populations de grands singes ont disparu. Donc on se rend compte qu'il y a comme un décalage entre le rythme parfois de la science et de l'acceptation des résultats. Résultats et la réalité du terrain.
Yann Arthus-Bertrand, la quête ultime, hein, c'est quand même celle de les voir, de les approcher, mais d'entrer dans leur intimité, c'est ça?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'animal sauvage a peur de l'homme, partout, dans le monde entier. L'homme est un prédateur qui tue, qui dérange les animaux sauvages. Et qui ne les respecte pas. On parle d'amour, de tendresse. Je viens de faire une vidéo pour L214 sur les élevages de cochons. C'est invraisemblable ce qu'on fait subir aux animaux, c'est honteux, quoi. On se rend même pas compte de ce qu'on fait, c'est les êtres vivants qui aiment, qui respirent, qui souffrent, et ce qu'on fait avec eux, c'est inimaginable. On parle des chimpanzés, regardez les loups en France ou les ours, personne n'en veut, l'animal sauvage dérange l'homme, c'est tout, on n'en veut pas. Parce que moi j'habite les Yvelines, et j'ai la chance formidable d'habiter près de la forêt de Rambouillet, je promène dans la forêt. Et je suis en train de faire un film en ce moment sur Legacy, qui s'appelle Legacy, qui est la suite du film Home. Et je commence par le Kenya, qui est un peu pour moi fondateur. Et c'est vrai qu'au Kenya, quand on arrive au Kenya, que d'un seul coup on voit un lion qu'on approche à 5 mètres en voiture, qu'on approche des éléphants, on me dit mais quel pied d'approcher les animaux sauvages qui n'ont pas peur de toi. Mais c'est un rêve absolu, quoi. C'est formidable. Moi, je mets à manger sur ma fenêtre le matin. Je vois les rouges-gorges qui viennent manger. Je suis à 1 mètre 2. Mais c'est formidable, l'animal sauvage qui a accepté l'homme. Et j'adorerais que les cerfs et les biches, moi, je trouve que je suis dans un endroit où il y a beaucoup de cerfs et biches, ou les sangliers, qu'on puisse les approcher, qu'on puisse les voir. Un animal qui est sauvage n'est pas forcément un animal qui a peur de l'homme. Ça n'a rien à voir. Dans les parcs anglais ou au Danemark, il y a les cerfs et les biches qu'on approche à quelques mètres, et c'est génial. On a perdu ce rapport magique d'approcher les animaux sauvages. Quand j'étais voir Diane Fossey, je me suis assis, que les gorilles sont venus autour de moi, mais j'ai pleuré d'émotion, quoi, pleuré véritablement. Il y a un mâle qui s'était endormi sur mon pied en ronflant. J'ai dit, mais c'est quand même incroyable que moi, petit mec, photographe, arrivant là-bas, un animal sauvage comme un gorille t'approche si près. Les cerfs et les biches, moi je me bats pour qu'il y ait moins de chasseurs. Mais je m'aperçois que les premiers ennemis des cerfs et des biches chez moi, c'est les assureurs. Parce que ça fait des accidents de voiture, donc il faut qu'il y ait moins de cerfs. Après, c'est les forestiers, parce que dès qu'on plante quelque chose, les cerfs, ils font leur bois dessus, ils bouffent les bourgeons, ça emmerde tout le monde. Les paysans, bien sûr, on parlait du maïs pour les chimpanzés. Moi, c'est le même problème avec le maïs, avec les sangliers et les cerfs. Si vous faites du maïs au long de la forêt, les animaux sauvages vont venir. Donc tout ça fait que l'animal sauvage nous emmerde. Voilà, on veut pas les voir. On veut bien les voir à la télé, dans les publicités pour quelque chose, mais au quotidien, ils nous embêtent. Et je me souviens d'avoir parlé à quelqu'un qui râlait parce que les cerfs et les biches mangeaient dans son jardin à Saint-Léger. Je dis, mais c'est génial d'avoir les cerfs et les biches qui viennent chez toi. C'est un cadeau extraordinaire. Et cette harmonie avec le monde sauvage, on l'a complètement oublié. En partie parce que la démographie en Afrique est tellement importante, c'est la démographie la plus forte au monde. Et c'est embêtant de mettre des réserves sous cloche, de dire l'homme ne peut pas ne pas s'approcher, il faut que l'homme puisse aller à l'intérieur. Mais on a perdu ce contact, quoi, ce respect de la vie autour de soi.
On n'a pas envie, comme vous dites, Yann Arthus-Bertrand, d'être embêté, y compris l'écologie aujourd'hui embête une certaine partie de la population, on peut le dire, Sabrina Krief.
Oui, mais je pense que le mot important qu'a prononcé Yann, c'est respect, parce que de façon aussi assez ambiguë, aujourd'hui, on voit fleurir une mode qui est celle des selfies justement avec des animaux sauvages ou des spectacles vivants avec des animaux sauvages. Et c'est aussi une de mes convictions profondes, c'est qu'on n'arrivera pas à protéger, à restaurer l'image de l'animal sauvage et de cette harmonie avec le monde de la nature si on continue à les considérer comme des objets, des animaux qu'on peut, alors pour le cas des grands singes et des singes habillés, déguisés, maquillés, faire venir sur des plateaux télé ou bien même
exposer dans les cirques.
Il y en a de moins en moins quand même. C'est quand même.
Alors, encore récemment, on a dû faire part d'une chimpanzée sur un plateau télé.
Vous mentionnez dans votre livre, Sabrina Krief.
Voilà,
en France
oui. En France, par Laurent Baffy qui s'est d'ailleurs excusé et montré très contrit de ce qui s'était passé parce que la chimpanzée.
Est devenue agressive, voilà, d'ailleurs, en réaction.
Donc, elle aurait pu être.
Tuer quelqu'un.
Ou bien elle-même est abattue simplement parce qu'elle était menaçante, mais il y a 15 jours ma nièce en fait a posté sur une de ses stories sur Instagram, elle était dans une soirée et il y avait un lionceau d'un mois et demi qui passait de bras en bras dans cette soirée, donc que fait un lionceau au milieu d'une soirée parisienne? On est bien à Paris, voilà, et donc
on ne s'amuse pas avec ce monde sauvage en tout cas.
Qu'est-ce que tu vas devenir ce lion surtout donc,
voilà, 4 mois c'est fini,
il finira en cage,
ouais. Donc les spectacles avec des animaux vivants, je pense que ça devrait être évolué et qu'on ne peut pas non plus mettre toute la faute, par exemple pour les animaux de l'Afrique subsaharienne, sur les pays qui les hébergent, d'où ils viennent.
C'est en cours en tout cas, il y a de plus en plus de villes qui interdisent des spectacles de cette nature.
Je répète, ça va aussi avec la façon dont on traite les animaux d'élevage. On peut pas, le chimpanzé est formidable de les défendre, mais il faut penser à ces millions d'animaux qu'on tue tous les jours. La France, nous, 25 millions de cochons chaque année. J'en parlais des poules. C'est invraisemblable. Donc,
notre rapport à l'animal.
Le rapport à l'animal, voilà. Et je répète, si on veut faire un geste écolo, arrêtons de consommer de la viande industrielle. Voilà. Ça, je passe mon temps à le dire.
Yann Arthus-Bertrand, vous avez fait le choix du regard vu du ciel, notamment. Un choix qui vous permet de renseigner aussi sur d'autres terrains cette transformation de la planète. Donc, vous n'êtes pas forcément au contact, mais en surplomb.
J'ai commencé à faire de la photographie aérienne quand j'étais au Kenya, parce que pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière. Et quand on travaille sur, on fait une étude, le territoire est super important. Donc on survolait tous les jours un territoire, qu'on était toujours en voiture en bas, c'est très intéressant parce qu'on comprend le territoire, ça bouge selon la densité d'animaux, selon le nombre de lions, donc c'était passionnant. Et j'ai bien compris que la photographie aérienne amenait énormément d'informations. Et donc après, je suis devenu photographe aérien presque par hasard, parce qu'on m'a demandé de faire un livre sur Paris. Mais j'ai continué à faire de la photographie aérienne, toujours en m'intéressant, bien sûr, à la nature et à l'environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'espèce la plus en danger, c'est l'homme. Donc, c'est celle-là dont je parle le plus.
Et voilà. Vos films aussi, hein, qui filment aussi, cette terre aussi.
Mais j'ai arrêté. Aujourd'hui, je fais plus de drones que d'hélicoptères et je ne prends plus l'avion. Donc, c'est très clair.
Et oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on parlait aussi de cette opinion publique, de cette société qui est de plus en plus consciente ou qui est, comme vous disiez, pour reprendre votre terme, emmerdée par l'écologie. Vous avez essuyé des reproches, celui notamment d'avoir utilisé des moyens polluants, comme les hélicos, les avions pour votre travail, à l'image de Nicolas Hulot qui avait été attaqué sur ce même terrain. Vous comprenez ces réactions de citoyens? Comment vous réagissez?
Non, mais d'abord, il faut savoir que quand j'ai fait beaucoup d'hélicoptères pour faire la vue du ciel, on ne parlait pas du tout de changement climatique. C'est, les gens ont complètement oublié que moi, j'ai même fait le Paris-Dakar, je faisais les reconnaissances du Paris-Dakar.
Avec Thierry Sabine, à l'époque.
J'étais très ami avec lui. J'ai découvert une Afrique d'abord incroyable, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Mais c'est une autre époque. À cette époque-là, on ne parlait pas de changement climatique. Quand j'ai fait mon exposition au Luxembourg et le livre est sorti, je n'ai jamais été attaqué sur le fait de prendre l'hélicoptère. C'est arrivé avec Al Gore. Quand Al Gore a commencé à parler des énergies fossiles, et je suis le premier. Ma fondation a été créée au départ pour faire de la compensation carbone solidaire, quoi, aider des gens à mieux vivre en leur donnant de l'énergie. Mais j'en suis pas fier, quoi. C'était normal de le faire. Et d'ailleurs, je pense que j'ai tardé avant d'arrêter de prendre l'avion, l'hélicoptère. J'ai fait le dernier prime sur France 2 sur l'Égypte il y a un mois. On va arrêter complètement, quoi. Moi, je vais arrêter, en tout cas, d'aller sur place. Et en plus, aujourd'hui, il y a énormément de drones partout. Et donc, on trouve énormément d'images dans tous les pays du monde. Donc, on n'a pas besoin toujours de se déplacer, d'y aller sur place. Et le film que je fais en ce moment, Legacy, on travaille avec beaucoup, beaucoup de dronistes du monde entier. On leur demande de filmer pour nous et ils nous envoient les images. Voilà. Donc, les reproches, je les comprends, mais complètement. C'est normal. J'ai émis du carbone plus que beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est normal que je sois le premier à le faire, et je le dis avec humilité, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, les reproches qu'on me fait, voilà, sont fondés, et je les accepte. C'est la meilleure façon de vivre. Et je vais vous dire une chose, c'est drôle parce que je disais ce matin, quand j'ai annoncé que j'arrêtais de prendre l'avion, j'ai beaucoup attaqué, bien sûr, et j'avais dit une chose, en fin de compte, que ça me rendait meilleur. J'écoutais l'autre jour le patron de Boeing qui disait, vous vous rendez compte, il n'y a que 20% des gens du monde qui ont pris l'avion, donc on a un marché ouvert, incroyable. Et il disait, il y a 210 millions d'Asiatiques qui ont pris l'avion pour la première fois l'année dernière. Donc voilà, on sait que c'est pas bon pour l'environnement. Et c'est ça que j'appelle un peu la banalité du mal. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même en se disant, l'autre le fait. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être un peu plus radical. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, mais j'ai 73 ans, donc ça m'a pris du temps pour le faire.
Sabrina Krief, oui, votre empreinte carbone.
Alors, mon empreinte carbone n'est peut-être pas excellente. Ceci dit, j'essaye à mon échelle de compenser quand je suis ici, en venant par exemple à vélo, etc. Après, l'idée n'est pas forcément de convaincre à tout prix. Je pense que, et c'est le cas par exemple quand on écrit un bouquin en tant que scientifique, c'est donner les bases et après, chacun construit son opinion et sa façon de faire en étant bien dans sa tête et dans son mode de vie. Mais notre rôle est malgré tout d'écrire les faits et d'alerter quand c'est nécessaire. Après, le rôle très important qu'ont eu les images soit de Nicolas Hulot, soit de Yann Arthus-Bertrand, c'est bien évidemment de nous amener à non seulement nous émerveiller, mais aussi prendre conscience après de ce décalage entre cette nature merveilleuse qui nous donne envie de nous battre et l'empreinte de l'homme au quotidien. Donc je pense qu'il y a vraiment un équilibre à trouver entre ces deux choses, que si chacun effectivement peut faire le maximum pour transmettre, c'est aussi important et c'est bien dans ce cadre-là que les scientifiques ont un rôle à transmettre à la fois leur passion mais aussi leurs résultats au grand public et pas juste à communiquer entre pairs.
Et il y a votre fondation Good Planet, Yann Arthus-Bertrand, donc située dans le domaine de Longchamp, association d'abord, créée en 2005, et puis cette fondation.
En mai 2017, nous avons ouvert le domaine de Longchamp. Nous y accueillons chaque semaine des milliers de personnes pour des ateliers thématiques, des conférences, des activités diverses dédiées à l'écologie et l'humanisme. C'est un lieu pour apprendre, pour découvrir, mais aussi pour passer à l'action.
Nous accueillons au domaine des enfants de tout niveau scolaire pour leur faire découvrir de manière ludique, amusante, en quoi consiste l'engagement pour une meilleure préservation de la planète. Et ça passe notamment par des activités autour de la découverte de la biodiversité, autour de la sensibilisation au gaspillage alimentaire, autour aussi d'ateliers comme de la photo nature par exemple. Et puis bien sûr, toutes ces activités sont gratuites pour les associations qui sont dans le champ de la solidarité et de l'aide aux plus démunis.
C'était un peu un rêve, cette fondation, d'avoir un endroit à Paris, avec un petit château que nous a prêté la ville de Paris, avec 3 hectares, où on pouvait aussi bien parler des abeilles, de l'alimentation, parce qu'on est une école de cuisine, et aussi parler des réfugiés. Tout ça, c'est une écologie très humaniste. J'adore cet endroit. On a 350 bénévoles qui viennent donner un coup de main, c'est formidable. Et ça donne une espèce de couleur à l'endroit assez chaleureuse, avec de bienveillance, de gentillesse, d'humanité. Il y a beaucoup d'utopie là-dedans, mais ça marche bien et c'est gratuit. Donc c'est ouvert. Là, je conseille à tous les gens qui ont des enfants ou même sans enfants d'aller faire un tour à la Fondation. On a une collection d'instruments de musique formidable. Bon, voilà, c'est un endroit magique. C'est aussi un endroit qui est ouvert à toutes les ONG du monde pour venir parler de ce qu'ils font.
Et donc c'est
une chance formidable d'avoir ce lieu.
Bienveillance, partage, optimisme, c'est ce qui vous caractérise aussi, Yann Arthus Bertrand. Un petit peu, j'ai envie de dire, comme Hubert Reeves, presque l'écologie du cœur, non, c'est ça?
D'abord, être optimiste aujourd'hui, c'est vraiment être un peu demeuré, quoi, quelque part. C'est vraiment pas voir les chiffres qui sont en train d'arriver. Mais, par contre, je pense qu'agir rend heureux et que cette façon de... Moi, je suis un peu comme Greta, moi, pour qui j'ai une admiration folle, d'ailleurs, je dois dire. Cette fille de 16 ans, ce qu'elle arrive à faire, c'est inouï. Je suis...
Non, mais dans le sens, vous n'êtes pas collapsologue. Vous êtes plutôt tourné vers le positif. Vous essayez encore de vous accrocher à ça, peut-être.
Mais même les collapsologues, quand tu regardes les vidéos de Pablo Servigne, qui parle de collapsologie, tu sors de là avec la pêche. Parce qu'il parle, en fin de compte, de qualité, de bienveillance, de gentillesse qu'il faut mettre en avant, de partage de ce monde nouveau. On va se retrouver donc dans ce monde difficile qui arrive, voilà, de s'y préparer. Mais moi, je pense qu'on a perdu la bataille contre le changement climatique. On l'a perdu. C'est ne pas le voir, c'est ridicule, parce qu'on voit bien les chiffres du GIEC. C'est vrai que si aujourd'hui on arrêtait d'émettre complètement des énergies fossiles, on pourrait changer. Donc on peut toujours croire que ça peut arriver un jour. Donc la porte n'est pas fermée. Mais il faut se préparer. Je pense que tous ces espoirs qu'on nous dit, oui, on va trouver la solution, on est un peu piqué au génie humain. On va croire qu'on va trouver la solution, et en fin de compte, bon, on sait bien qu'on la trouvera pas. Donc, on continue comme avant. Et donc, cet espoir qu'on a nous empêche de nous préparer à ce qui est en train d'arriver. Et cet espoir peut nous rendre meilleurs, d'amener en nous des qualités qu'on a un peu perdues. De regarder la vie autour de soi d'une façon différente, puisqu'elle va peut-être disparaître, de la sanctuariser, de la regarder avec émerveillement. Et moi, depuis que j'ai décidé qu'on avait perdu le combat, je sais que j'étais quelqu'un qui s'est battu. C'est drôle, je suis beaucoup plus optimiste qu'avant. On va tous mourir un jour. Mais qu'est-ce que je fais des années qui me restent à vivre? Voilà, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, j'essaye de m'améliorer. Et il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire parce que je suis loin d'être l'homme que j'aimerais être. Voilà.
Sabrina Krief.
Oui, cette anticipation, je pense qu'elle est importante. Après, savoir si c'est anxiogène, je pense que chacun réagit de façon différente. Mais on peut aussi comprendre que ça suscite quand même beaucoup d'inquiétude. Après, avoir dans ses mains et pouvoir proposer quelques solutions, que ce soit à l'échelle individuelle ou en tout cas essayer de convaincre les grosses sociétés ou les politiques d'agir ensemble, c'est autre chose. Mais effectivement, il faut de l'énergie. Et donc, je pense que l'optimisme est un peu indispensable pour...
Pour l'énergie, voilà. Il faut l'optimisme.
Ouais. Oui, en tout cas, aujourd'hui, 98% de la biomasse des vertébrés terrestres est celle des hommes et des animaux domestiques. Donc, dans cet état des lieux, les animaux sauvages ont quasiment disparu. Vos frères de la forêt, Sabrina Krief, sont aujourd'hui en danger à différents niveaux.
Nous sommes en Ouganda, surnommée la perle de l'Afrique. Un pays vert et montagneux, une forêt tropicale exubérante, une faune sauvage menacée par les braconniers. Ce chimpanzé, filmé par l'équipe de Sabrina Krief, a la main droite prise au piège. Des pièges qui ne sont pourtant pas destinés aux chimpanzés, car les Ougandais ne consomment pas de viande de singe, mais ils se retrouvent pris dans les collets, posés pour le petit gibier.
Vous n'avez jamais vu de piège ? Si, vous en avez tous vu. Ah d'accord.
La primatologue veut agir. Elle a recruté des villageois pour enlever les pièges dans la forêt. Des collets de petite taille destinés aux antilopes et d'autres plus grands pour les éléphants chassés pour leur ivoire. Pourtant, l'Ouganda lutte fermement contre le braconnage. Les chasseurs risquent de lourdes amendes et jusqu'à 7 ans de prison, parfois même plus. C'est pourquoi Clovis, l'ancien braconnier, a décidé de changer de vie.
C'est dangereux. S'ils vous trouvent, ils vous tuent. Oui, parce que la loi est passée. S'ils vous prennent en train de chasser dans le parc, ils vous tuent.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Sabrina Krief, donc on aura compris, hein, il y a la déforestation, la pollution, l'urbanisation, les risques de collision avec les véhicules, mais il y a ce braconnage-là et ces amputations, finalement, en sachant que souvent ces chimpanzés vivent pendant longtemps, presque un an, même avec les pièges, câbles. Câbles, avant de s'en débarrasser.
Des collets qui sont destinés effectivement aux petits gibiers, donc c'est des câbles métalliques qui vont rentrer dans la chair et pour se libérer, en fait, les chimpanzés tirent très fort et ils sont incapables ensuite de pouvoir enlever le nœud coulant qui est vraiment rentré dans la chair. Donc c'est qu'après plusieurs mois, voire années, qu'une partie du membre va tomber, se nécroser, tomber. Et donc on a environ 30% des chimpanzés de la communauté qu'on suit qui ont des mutilations du
crâne piège.
C'est énorme, 30%. C'est énorme, d'où l'énorme travail de mon équipe sur le terrain, puisqu'aujourd'hui on a une équipe de 25 Ougandais issus des villages voisins qui travaillent à la fois au suivi des chimpanzés mais aussi aux actions de lutte anti-braconnage, de lutte anti-coupe illégale aussi d'arbres et puis à des actions de sensibilisation. Donc il y a cet aspect très fort de la lutte contre le braconnage et d'identifier qui sont les personnes qui viennent poser et pourquoi. Et donc on s'est rendu compte que ce sont finalement les employés des compagnies de thé le plus souvent qui viennent poser des pièges. Pourquoi ? Bah, simplement parce que ces gens-là, pour gagner leur vie, travaillent toute la journée pour récolter parfois jusqu'à 300 kilos de feuilles de thé et gagnent 1 euro. Donc, ce même thé que nous consommons, hein, ce n'est pas du thé qui est consommé localement, c'est du thé qui est destiné à l'exportation. Donc forcément, avec de si faibles revenus, on ne peut pas aller s'acheter un poulet, même si l'élevage existe en Ouganda, dans la zone où on est. Il y a des chèvres, il y a des poulets, il y a des vaches, mais leurs revenus sont trop faibles.
Donc on braconne.
Voilà, d'où l'idée qu'on a eue et qui lie en fait l'ensemble, qui est d'essayer d'améliorer la situation économique, mais aussi sanitaire, parce que ce thé est un thé cultivé de façon industrielle, avec énormément de pesticides et d'intrants chimiques, qui a priori sont aussi responsables de malformations chez les chimpanzés qu'on suit.
Ah oui, c'est-à-dire que ce sont des perturbateurs endocriniens et vous commencez à voir justement ces malformations physiquement sur les chimpanzés.
Exactement, on a aussi un quart des chimpanzés qui ont des malformations faciales, donc bec de lièvre, malformations au niveau des narines, deux femelles qui n'ont pas de cycle sexuel, donc on s'interroge sur l'origine de ces troubles et en investiguant en fait l'eau des rivières, les sédiments, les sols, on a découvert la présence de nombreux pesticides en cocktail qui, quand on les teste sur des petits têtards, en fait, montrent des effets de perturbation endocrinienne importants. Et donc, on suppose que les mères chimpanzés, quand elles sont gestantes, exposent leur fœtus à ces perturbateurs endocriniens en cocktail. Donc, ça peut être des néonicotinoïdes tels que l'imidaclopride, qui est très présent quand on fait les analyses. Il reste du DDT, évidemment du glyphosate. Et donc, l'idée serait évidemment de pouvoir réduire ces pesticides et en même temps augmenter les revenus. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, quand on me demande quelle est la solution ici pour essayer d'améliorer la situation des chimpanzés, elle passe probablement autour de par notre petit déjeuner. Donc café, thé, cacao qui sont cultivés là-bas. Huile de palme, bien sûr, canne à sucre aussi, qui contribue à la déforestation. Et nos gestes au quotidien de citoyens peuvent donc améliorer à la fois la situation pour la santé de l'environnement, mais aussi la santé des humains et de la faune sauvage. Parce que les chimpanzés étant tellement proches de nous, on sait que les effets sur les humains sont probablement similaires.
Et c'est des pesticides qui sont autorisés en France ou pas ?
Une partie, oui, certains. Oui,
ça me fait penser à ce qui se passe en France sur les pesticides. Est-ce qu'on peut les mettre à 5 mètres des maisons ou à mettre à 200 mètres. Quoi. C'est quand aujourd'hui, il a été acté par l'État qu'on pouvait mettre des pesticides à 5 mètres des maisons ou des herbicides. C'est fou, quoi.
Les chimpanzés peuvent apparaître à la fois comme des indicateurs de l'état de nos forêts et donc cette disparition montre bien, parce qu'ils habitent uniquement en forêt tropicale, que ces forêts tropicales qui sont les poumons de notre planète sont vraiment en train de disparaître, mais aussi comme sentinelles parce que eux ne fument pas, ne boivent pas, etc. Donc, ces critères qui, des fois, nous font dire on n'est pas sûr que ce soit les pesticides. ça peut être l'alcool ou le tabac. Au moins, chez les chimpanzés, on peut s'affranchir de cette question-là.
Des animaux incroyables, hein, dont on a beaucoup à apprendre, notamment l'usage des plantes médicinales et des plantes parfois non répertoriées. Et eux, finalement, ont développé une automédication qui peut nous aider, nous aussi, humains.
C'était vraiment le cœur de mes travaux et ça l'est toujours. Hein. Il a fallu un peu de temps pour reprendre puisqu'avec cette nouvelle communauté, il faut pouvoir les approcher, faire le suivi de leur santé, etc. sans les toucher puisqu'on garde 10 mètres de distance pour ne pas leur transmettre de maladies justement et pas non plus qu'ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Et donc l'idée était de les utiliser comme guide vers des nouvelles molécules, ce qui a plutôt bien marché puisqu'on a pu découvrir des molécules à activité antipaludique, antitumorale et que c'était effectivement soit des plantes qui n'étaient pas ou peu connues, en tout cas de notre société occidentale, qui n'avaient pas été étudiées pour leurs molécules à activité biologique, et parfois des plantes qui étaient connues, mais dont ces molécules n'avaient pas encore été isolées.
Le palu existe chez les chimpanzés ou pas ?
Alors c'est ce que la découverte de ces molécules a suscité comme question après, donc ces molécules à activité antipaludique, et donc j'ai découvert deux nouvelles espèces de plasmodium chez les chimpanzés.
Plasmodium, ça veut dire quoi ?
Donc c'est le parasite qui est responsable du paludisme.
D'accord.
Il y a plusieurs espèces chez les humains. Chez les chimpanzés, on en connaissait quelques-unes. Et là, juste avec quelques gouttes de sang qu'on avait pu obtenir vraiment de façon opportuniste, hein, quand deux femelles s'étaient battues, quand l'une était décédée, que j'avais pu faire une autopsie, eh bien juste avec ces quelques gouttes de sang, on a découvert deux nouvelles espèces. Donc voilà, il y a encore énormément à apprendre. Et ce qui est fabuleux, c'est que les chimpanzés ne meurent pas comme les humains qui partagent leur habitat du paludisme. Donc, est-ce que c'est uniquement les plantes médicinales ? J'aimerais bien le croire, mais non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une immunité aussi particulière. Et en milieu naturel, ils nous apprennent tellement plus qu'en laboratoire. Donc, c'est ça qui me,
c'est formidable.
Qui me motive à poursuivre leurs observations malgré la difficulté.
Parce que c'est quand même la première mortalité en Afrique, c'est le paludisme.
Oui, et aujourd'hui,
les chimpanzés pourraient sauver des millions de gens, quoi. C'est formidable. Vous travaillez avec la Fondation Gates, qui est très impliquée dans la lutte contre le paludisme.
Pas encore.
Dommage.
J'espère, si possible, avoir des, oui, des contacts.
Vous donnerez des moyens formidables pour protéger ces chimpanzés. Parce que si vraiment ces chimpanzés peuvent sauver des millions de gens, voilà, ça, c'est une bonne raison pour mettre plus de pesticides autour et voilà.
Ouais,
et deviendrait indispensable.
On va découvrir à ce stade de l'émission votre choix musical. Yann Arthus Bertrand, un petit moment optimiste, hein, peut-être, oui. Ou pas, vous allez me dire. Je crois que vous avez choisi Imani.
Oui, alors Imani parce que on sort un film formidable sur les femmes, le 8 mars dans le monde entier. On a fait 2000 interviews dans le monde. Et Imani, que je connaissais pas, qui est une femme assez engagée, une chanteuse incroyable, assez mannequin, magnifique, qui fait, c'est elle qui fait la chanson du film. Voilà, donc c'est pour ça.
France Culture. De cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau. There are tears and fears even in my dreams. The sound of my wound in my inner stream. They unchain my legs, but I've been always free. I always stood even on my knees. They were no begin, they were no please. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Knock, 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 knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. And the TPGs and return stories do not erase all the memories. Working before they preach, we were no men. I will be defined. Eyes, children of the hopeless realize that freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep.
C'était Imani. Le choix musical de Yann Arthus-Bertrand, c'est la suite de notre émission de Cause à effet sur France Culture. Regard croisé aujourd'hui avec la primatologue Sabrina Krief, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, directrice de la station d'études et de préservation des grands singes de Sébitoli en Ouganda, auteure notamment du livre Chimpanzés, mes frères de la forêt, un livre paru aux éditions Actes Sud. Et puis avec nous Yann Arthus-Bertrand, photographe, réalisateur et président de la fondation Good Planet, illustrateur du livre L'eau date aussi, ce livre que l'on doit au pape François, édité chez Première Partie. Mais tout de suite, on poursuit l'émission en prenant la direction de la rédaction des pages planète du journal Le Monde. Bonjour Gaëlle Dupont.
Bonjour Aurélie.
Alors, votre choix, Gaëlle Dupont, j'appelle que vous êtes rédactrice en chef adjointe des pages planète du journal Le Monde. Et votre choix dans l'œil du monde planète s'est porté sur une femme océanographe que vous avez eu la chance de rencontrer.
Oui, c'est une femme au destin tout à fait exceptionnel dont je voulais vous parler, c'est Sylvia Earle. Son nom n'est pas très connu en France, il l'est beaucoup plus aux États-Unis, où elle est surnommée « Her Deepness », c'est-à-dire sa profondeur. Sylvia Earle a 84 ans, elle est effectivement océanographe, et elle a passé, sur ses 84 années, 7000 heures sous les mers, 7000 heures de plongée à son actif. Et elle s'est rendue célèbre aux États-Unis en étant la première femme à diriger une mission d'exploration sous-marine entièrement féminine au début des années 1970. C'est une femme qui a toujours été passionnée par la mer, par l'océan, qui s'y est intéressée dès son enfance, qui est devenue docteur en biologie marine en 1966. Mais à l'époque, elle a été candidate pour rejoindre une mission d'exploration sous-marine qui était financée par la NASA. Et la NASA l'a refusée parce qu'elle craignait la promiscuité entre hommes et femmes au cours de cette mission sous-marine. Elle a donc monté une équipe entièrement féminine qui s'appelait Tektite 2. Et cette mission Tektite 2 a duré 15 jours. Celles qu'on appelait les aquanautes sont restées donc sous l'eau pendant 15 jours pour mener leurs expériences. Et quand elles sont ressorties, eh bien, elles étaient devenues très célèbres. Et c'est cet épisode-là qui a propulsé Sylvia Earle, porte-parole des océans. Et depuis, elle a passé son existence à continuer à faire de la recherche. Elle a été la première directrice de recherche femme de la NOAA, le grand institut de recherche américain, en 1990. Elle a aussi porté ce discours de défense des océans auprès du grand public, parce que c'est vraiment ce milieu auquel elle s'intéresse et auquel elle est extrêmement attachée qu'elle veut défendre, à la fois parce qu'elle estime que les créatures sous-marines sont comme nous des animaux sociaux, et que donc on devrait s'intéresser à eux et mieux les connaître au lieu de les manger et de les pêcher à des échelles industrielles. Et elle explique aussi qu'il n'y a pas de vie possible sur Terre sans océan, et qu'on parle de la forêt pluviale comme du poumon de la planète, mais que c'est l'océan qui nous permet de vivre.
Alors Gaëlle Dupont, est-ce que Sylvia Earle reste pleine d'espoir? Est-ce qu'elle continue à garder l'espoir, ou elle craint pour le devenir des océans?
Elle estime qu'il faudrait protéger 50% des terres et des océans pour espérer maintenir un écosystème suffisamment résilient pour qu'il puisse continuer à vivre dans de bonnes conditions et remplir ses fonctions. Donc elle est à la fois très inquiète de l'état des choses, mais en même temps c'est une femme qui est habitée par un optimisme très galvanisant. Et elle cite des exemples, par exemple la Commission baleinière internationale, c'est un accord international qui a permis quand même la sauvegarde de cette espèce. Donc voilà, quand on veut, on peut, quand on se donne les moyens de faire, on peut atteindre des objectifs, et qu'il ne tient qu'à nous, espèce humaine, de les atteindre.
Je voulais dire deux choses. D'abord, bravo pour la page Planète du Monde. Elle est formidable. Je suis un accro à ça tous les matins. C'est ma première page. J'ai vraiment avec des gens qui font des rapports formidables. Et c'est vraiment le journal, je pense, qui fait les rapports les plus intéressants sur l'environnement. Le plastique, je voyais un papier dans Le Monde, d'ailleurs encore, sur la page Planète, sur le recyclage du plastique en Norvège, où 100% du plastique est recyclé. 100%. Que toutes les bouteilles sont consignées. Et donc, vous les mettez dans un appareil, on vous demande si vous voulez toucher 30 centimes ou est-ce que vous le donnez à une association. Et donc, toutes les bouteilles en plastique, 100%. Se recycler. Il y a eu un projet en France qui a été refusé par l'Assemblée nationale parce que les villes, touche une subvention pour récupérer le plastique. C'est absolument grotesque et nul. Et personne ne jette une bouteille parce que ça vaut de l'argent. Et voilà, c'est ce qu'on devrait faire automatiquement. Donc, ça permettrait de garder du plastique, parce que c'est quand même très commode, putain, le plastique, et en même temps savoir qu'on détruit pas l'environnement.
En tout cas, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur Sylvia Earle, bien sûr, l'article de Gaëlle Dupont est à retrouver sur le site lemonde.fr et sur le site de notre émission. Alors, justement, tout cela, ça nous ramène bien sûr à notre société de consommation, hein, qui a ses effets directs, on l'a compris, sur toutes les espèces vivantes. Sabrina Kriev, vous avez déposé un projet au Fonds français pour l'environnement mondial pour réconcilier forêt, faune et fermier. De quoi s'agit-il?
Il s'agit en fait de mettre en place ce projet d'agriculture biologique avec les communautés locales, donc non seulement autour du thé, mais plus spécifiquement en agroforesterie, agroécologie, de façon aussi à travailler sur le foncier, c'est-à-dire ne plus positionner les champs de maïs qui sont très attractifs pour les chimpanzés, mais aussi pour les éléphants, puisqu'on travaille aussi sur les éléphants. Donc essayer de pouvoir rétablir une bonne gouvernance pour que les terres puissent être disposées de façon convenable et qu'il n'y ait pas que les plus pauvres qui aient les terres proches de la forêt. Et puis donc essayer de réduire petit à petit les intrants chimiques, de convaincre les grosses sociétés. Certaines sont des coopératives, mais d'autres sont vraiment des grosses entreprises, de planter des arbres pour pouvoir réduire l'érosion des sols, faire de l'ombrage pour les théiers. On a juste à côté l'exemple d'une concession qui marche très bien en bio depuis 20 ans, où il y a du thé, du café, du tournesol, du sésame qui est produit de façon bio avec un très bon rendement, donc c'est possible.
Et quelle marque? Faut dire la marque.
Alors c'est Kaangi Estate, qui n'est pas encore commercialisé en France, mais notre projet c'est vraiment de mettre ça en route avec un label Chimpanzee and Elephant Friendly qui permette aux consommateurs de se dire que de protéger l'environnement, on fait aussi du commerce équitable effectivement, mais on protège aussi la faune sauvage. Donc mon espoir, c'est que les consommateurs de demain puissent réussir à convaincre qu'il y a un marché qui existe et donc on essaye d'étendre ça petit à petit.
Vous avez pu le faire, Sabrina Kriev, sans réticence ou sans difficulté face à certains lobbies?
Alors, pour l'instant, en tout cas, le projet est soutenu effectivement par le Fonds français pour l'environnement mondial, par la Fondation Prince Albert, par la Fondation Nicolas Hulot. Donc, on a réussi à regrouper un petit nombre d'acteurs qui sont convaincus que ça peut marcher, mais à une toute petite échelle. Donc, l'idée est vraiment de servir de modèle pour éventuellement le répliquer plus tard avec d'autres fondations éventuellement et plus largement dans d'autres zones, évidemment.
Il y a beaucoup d'éléphants.
Il y a beaucoup d'éléphants, pratiquement autant que de chimpanzés.
Ah oui.
Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que quand on a commencé il y a 20 ans, dans cette zone du parc, il n'y avait pratiquement plus aucun éléphant. Il faut savoir que pendant la période d'Idi Amin, les Ougandais ont énormément souffert de cette période-là et ont abattu pratiquement tous les éléphants.
Pour manger.
Voilà, pour manger. Et petit à petit, en fait, les éléphants du parc de savane de Queen Elizabeth ont réinvesti, grâce à un corridor écologique qui a été créé, le parc de forêt de Kibale et les éléphants de République démocratique du Congo, sous la pression du braconnage, ont traversé la frontière, donc qui est quand même le bout de la chaîne du Rwenzori, pour à nouveau passer par Queen Elizabeth et arriver jusqu'à Kibale. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'éléphants qu'on rencontre en forêt. C'est tout à fait impressionnant. Fabuleux.
Quelle est la taille de la réserve?
Elle fait 800 km², donc c'est un parc national de taille raisonnable, mais
oui, c'est pas très très grand.
Voilà, pas suffisante pour contenir des populations d'éléphants et de chimpanzés. Aujourd'hui, vraiment, l'urgence, c'est aussi de recréer ces connexions, ces corridors, parce que les éléphants font des dégâts monstrueux. Et nous, donc, on a avec nos partenaires ougandais et certains de mes assistants mis en place des projets de barrières de ruches, de clôtures de ruches. En fait, les éléphants ont peur des piqûres d'abeilles, donc on met des ruches suspendues par un câble sur quelques dizaines de mètres. Et quand l'éléphant touche le câble, les ruches sont agitées et
les abeilles attaquent les
éléphants qui repartent en courant. Et en fait, comme ils ont une très bonne mémoire, assez rapidement, ils évitent cette zone-là. Et ça permet également d'avoir un miel qui peut ensuite générer des revenus, à condition qu'il n'y ait pas d'imidaclopride dans les environs.
Mais c'est ça, chimique.
Puisqu'on a aussi, donc, avec ces fameux néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, de gros problèmes pour nos ruches qui sont à côté des champs qui sont traités, avec une mortalité des abeilles très importante.
Donc là, on se rend vraiment compte que tout va ensemble. De développer ces cultures en bio, c'est aussi le rôle de votre fondation, Yanatus Bertrand. C'est vraiment Good Planet s'engage aussi sur ce terrain-là d'accompagnement, sur les changements de régime alimentaire.
Il faut signer l'appel des coquelicots, hein. Voilà,
c'est
facile sur Internet, voilà, pour combattre les pesticides en France.
En tout cas, c'est aussi cette prise de conscience de promouvoir une certaine décroissance, quelque part, Yann Arthus-Bertrand. Alors, c'est un discours qui n'est pas facile à faire passer. Vous qui travaillez aussi avec des grands groupes, avec des grandes entreprises, hein, comme on pense à LVMH, hein, de Bernard Arnault, que vous conseillez, je crois que vous êtes devenu censeur au comité d'administration. Hein. Est-ce qu'ils entendent ce discours-là, si on leur parle de décroissance, de changement de régime alimentaire ou de consommation différente?
Alors, j'essaye d'imposer au conseil d'administration qu'il y ait du bio, qu'il n'y ait pas de viande. J'essaye, ça ne marche pas tous les coups, mais ils m'écoutent. J'arrive au conseil d'administration avec un petit bouquin. Il y a un bouquin que je leur ai donné qui s'appelle « Pour arrêter de se mentir », qui est un espèce de petit livre qui explique qu'on n'a pas fait grand-chose depuis 30 ans et où on va. Après, je leur ai donné dernièrement tous les discours de Greta, distribués à tout le conseil d'administration. Et là, au conseil d'administration, on va faire une... Jankovici, qui est le grand spécialiste du carbone, va leur faire un cours d'une heure. Voilà. Donc, mon rôle est d'infuser un petit peu d'écologie. Bien sûr, sur un gros groupe énorme, un groupe de luxe. Maintenant, la décroissance, on va vers une décroissance de toute façon, c'est écrit dans l'histoire, il y aura de moins en moins. La décroissance est déjà là de toute façon quelque part. Mais je crois que c'est la seule solution, vivre mieux avec un peu moins. On vit dans un monde de cette espèce de tyrannie, de religion de la croissance qui nous fait tous vivre. Et donc l'ennemi, en fin de compte, c'est nous, quoi. Et donc de vivre mieux avec moins, c'est pas très facile. On est un peu dépassé par l'ampleur du projet. C'est vrai que le mot décroissance est un mot presque grossier que personne n'a envie d'entendre. D'ailleurs, il y a une boîte qui est formidable là-dessus, c'est Patagonia. Patagonia est une boîte américaine où ils ont décidé de ne pas croître. Voilà. Donc, et d'ailleurs, le Patagonia en France, par exemple, leurs bureaux sont à Chamonix avant que les gens puissent faire du ski. Donc, c'est vraiment génial. Il y a une réflexion sur la qualité de vie. Et dans son livre, le patron de Patagonia, qui était un type extraordinaire, raconte qu'un jour, il avait commandé du coton et qui était dans les années 80, qui s'appelait le coton, il lit un papier sur le coton bio, et le coton a besoin d'énormément de pesticides, il dit mais je peux pas prendre des pesticides, alors il a annulé la commande et on lui dit mais t'es fou, t'as commandé, t'as payé, il dit mais je peux pas faire autrement, donc il a mis sa boîte en danger en se disant je ne veux pas, et d'ailleurs la publicité de Patagonia il est dans le New York Times, je me souviens je l'ai gardée pour mon film, où il y a un vieil vest Patagonia, il dit non achetez pas une neuve, faites la réparer, on vous la répare gratuitement, et c'est génial d'avoir cette réflexion là, et c'est une boîte un peu iconique dans de ce monde.
Oui, qui fait en sorte de rester à l'équilibre et pas forcément
voilà,
et de
c'est lui qui a lancé l'opération 1% pour la planète, voilà, où on donne 1% de chiffre d'affaires des grosses sociétés. Ça serait bien que les grosses boîtes comme Total et LVMH puissent aussi le faire. On va travailler à ça. Voilà.
La démission de Nicolas Hulot le 28 août 2018, donc de son poste de ministre de la Transition écologique et solidaire, a révélé au grand jour, on peut dire, une inadéquation entre le monde politique et l'urgence planétaire. Yann Arthus-Bertrand.
Moi, j'ai suivi ça de loin, je connais bien Nicolas, mais je pense que c'est Guémard qui m'avait dit ça, le député, qui m'a dit « la méchanceté est une qualité en politique ». Vous imaginez ça? Je pense que Nicolas est trop sensible, il a envie d'être aimé, c'est quelqu'un de sincère, et que dans ce monde extrêmement difficile, voilà, puis faut savoir mentir, quoi. C'est ce qu'il a dit quand il a démissionné, je vais arrêter de me mentir. Mais je pense que là où Nicolas a peut-être fait une erreur, c'est que avant de démissionner, il aurait demandé de l'aide. Et je pense qu'il avait autour de lui des millions de personnes qui l'auraient aidé. Et je pense qu'il a souffert, voilà, qu'il n'était pas heureux. Et voilà, on peut pas rester malheureux dans un poste si important, mais qu'il a essayé de faire le maximum. Vraiment, faut regarder en replay cette émission sur la 5, qui raconte son histoire, voilà, comme il pensait par exemple pouvoir, vous savez, toute la chose qui a été faite sur l'alimentation en France, il pensait pouvoir diriger ça, et ça a entièrement été dirigé par le ministre de l'Agriculture. Il s'est senti exclu à ça, il n'est même pas venu au rapport, donc voilà.
Il a eu les fameux états généraux.
Voilà, et les secrétaires d'État qui devaient choisir lui-même, on lui a imposé deux personnes, alors qu'il aurait aimé choisir les gens qui allaient travailler avec lui. Donc voilà. Moi, le peu de propositions que j'ai eues pour l'appeler, j'ai bien compris que j'étais incapable de le faire. Et en même temps, Nicolas est aussi le meilleur d'entre nous, hein. Donc c'est normal qu'il essaye. Et bravo qu'il ait essayé.
En tout cas, ça a montré à l'opinion publique peut-être une absence de vision à long terme aussi de ce monde politique, des contradictions bien entre sûr, les modèles économiques et les modèles écologiques, et puis la nécessité peut-être d'accepter d'être dans un rapport de force avec les lobbies. Les politiques aujourd'hui, s'ils devaient répondre à la demande de l'opinion publique, devraient avoir cette attitude-là, non ?
Faire de la politique aujourd'hui, c'est de gérer les pressions. Et je pense surtout que les hommes politiques ne savent pas ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas pris conscience. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, et je vais vous dire comment ça va passer, c'est les enfants. Le jour, il n'y a pas très longtemps, j'ai parlé à un très gros groupe pétrolier français avec tous les directeurs, et je leur ai expliqué ce que je pensais de ce qu'ils vendaient. Et alors, bien sûr, les gens se sont levés, c'est pas normal, je suis fier de travailler là, on va changer pour le gaz, bon. Et je leur ai dit, mais quels sont ceux qui ont des enfants ici? Et tout le monde a levé la main. Et j'ai dit, quels sont ceux dont les enfants leur reprochent de travailler chez Total? Et tous les mains se sont levées. Donc, ça veut bien dire que quelque part, voilà, ces gens-là aussi ont pris conscience de ça. Donc, faut pas avoir honte de vendre du pétrole, mais faut bien le faire. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, j'ai vu pas très longtemps un responsable important de ce groupe pétrolier, je parlais des hydroliennes. Et je leur disais, mais pourquoi on se sert pas des marées? Marées, c'est quand même une énergie incroyable, qui vit bah, du soleil, il pleut, ça marche toujours. Quoi. Et il me dit, c'est pas rentable. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut parler de rentabilité pour les énergies renouvelables, pour essayer d'échanger cette énergie qui est en train de nous tuer? Parce que c'est les énergies fossiles qui nous tuent, il ne faut pas se faire d'illusions, même si dans le rapport de la COP21 à Paris, il n'y a pas le mot énergie fossile, c'est ni le mot pétrole, ni le mot charbon, sinon les pays producteurs ne signaient pas l'accord. C'est comme ça invraisemblable. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à Madrid, est-ce que les gens ont été en train? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus, quoi? Aujourd'hui, on est remplacé ces énergies fossiles qui nous empoisonnent par les énergies renouvelables, c'est indispensable. On ne parle pas de rentabilité, là. On parle de la vie tout simplement. Et la vie de... Parce que quand on parle de la sixième extinction, c'est la vie de nos enfants, c'est même pas de nos petits-enfants aujourd'hui. Et c'est incroyable qu'on est incapable de comprendre ça, de l'assimiler.
Sabrina Krief, une réaction peut-être par rapport à voilà ce terrain en tout cas de la politique, ce monde politique et l'urgence planétaire et le fait que Nicolas Hulot, cette démission a été ressentie aussi peut-être comme un échec de tous. Hein.
Un échec, mais j'ai l'impression qu'il y a un après Hulot et que ça a quand même déclenché, en tout cas l'émotion qu'on a ressentie et la sincérité qu'on a ressentie au moment de sa démission a permis de déclencher comme un élan. J'ai l'impression qu'il y a effectivement chez les jeunes, mais plus largement, une prise de conscience qui commence à prendre racines. Donc voilà, si au moins ça a servi à ça, Nicolas sera rassuré, mais c'est effectivement une expérience pour essayer de voir s'il était possible de faire quelque chose du côté de la politique. Probablement que les ONG, les fondations, etc. Conviennent mieux à des gens qui ont besoin d'être dans l'action et de voir des résultats. C'est vrai qu'il y a un décalage énorme entre le temps du politique et l'urgence.
Allez, avant de se quitter, confiez-nous votre endroit refuge. Quand vous voulez vous extraire de cette société, vous allez où? Dans les monts de la Lune, peut-être, Sabrina Krief?
Oui, exactement. C'est vraiment l'endroit où je me ressource et où je reprends de l'énergie.
Rappelez-nous où ça se situe.
Donc, à la frontière de la République démocratique du Congo, en Ouganda, dans le parc national de Kibale, avec mes frères, nos frères et sœurs de la forêt. Frères, parce que génétiquement, on est extrêmement proches, mais aussi frères parce que nos avenirs sont liés et si eux ne survivent pas, on ne leur survivra sûrement pas longtemps.
Yann Arthus Bertrand, je crois que vous avez une cabane dans un arbre.
Oui, non, moi je me promène dans la forêt, j'ai la chance d'avoir ma maison qui est à 20 mètres de la forêt de Rambouillet, donc un territoire de milliers d'hectares qui nous appartient à tous. Et je me promène beaucoup avec mon chien, avec qui je parle beaucoup. Je parle à mon chien. Voilà. Je sais pas s'il comprend tout ce que je lui dis. Et je fais une chose, j'embrasse les arbres. Je prends les arbres à bras le corps. Une fois, je reste 5 minutes auprès d'un corps pour prendre l'énergie des arbres. C'est un peu ridicule, mais quelqu'un m'a dit un jour que c'était bon pour la santé, donc je le fais.
Je rappelle le titre de votre livre, Sabrina Krief, Chimpanzés, mes frères de la forêt, paru aux éditions Actes Sud. Et on peut mentionner Les chimpanzés des monts de la Lune, paru chez Belin. Yann Arthus Bertrand, j'ai envie de citer le petit livre Ça chauffe pour la planète. Vous l'avez préfacé, il y a 60 dessins, ouais. Voilà, de presse qui disent beaucoup aussi, un livre paru chez Gallimard.
Et puis... Avec des dessins de presse qui ont 30 ou 40 ans, qui sont incroyables. Hein.
Ouais,
l'époque de Dumont, donc c'est pas d'aujourd'hui. Le journal La Gueule Ouverte faisait déjà des caricatures incroyables.
En tout cas, toutes ces informations et des compléments sont à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Réécoute, téléchargement à loisir. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur notre page Facebook. Et puis dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture. Bien sûr, vous allez retrouver Être et Savoir et Louise Touré.